Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une rencontre autour de l'exil, qui vaut le voyage, à en croire l'un de nos invités, l'écrivain haïtien, canadien, peut-être d'autres nationalités, on va voir avec lui, Dany Laferrière, et l'écrivaine française d'ascendance indienne, Shumona Sinha, à qui j'emprunte cette phrase, « La vie est un aéroport interminable ». Bonjour Shumona Sinha.
Bonjour.
Et bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Voilà, je disais, écrivain haïtien, canadien, mais je devrais peut-être ajouter japonais en vertu de ce titre. Je suis un écrivain japonais, c'était le titre de vos livres.
Je crois que les mots peuvent nous définir aussi. Ouais. C'est pour ça qu'on a appris à écrire. C'est pour qu'un jour, les mots puissent devenir tout pour nous.
Voilà.
D'ailleurs, un des personnages de l'exil, c'est notre ami, l'auteur des Tristes, Ovid. Et il disait, parce qu'il a été banni ou relégué, parce que précisément, il avait écrit des mots qui étaient inacceptables pour l'autorité. Et il espère que sa muse va l'en délivrer, puisque les mots qui l'ont fait chasser pourront le faire revenir.
Oui, et j'ajoute qu'il faut lire absolument Les Tristes, hein, le recueil absolument magnifique, poétique d'Ovid, voilà, qui chante son exil. C'était dans l'Antiquité romaine. C'est important de dire haïtien, canadien, japonais, où on s'en fiche complètement.
J'ai passé ma vie à écrire, ouais. C'est ce que j'ai fait le plus souvent. Je suis un écrivain alors.
Ça suffit, c'est ça votre patrie, c'est la littérature.
Oui, oui, le reste est...
Le reste n'est que littérature.
Voilà.
Alors, Dany Laferrière, prix Médicis pour l'énigme du retour, membre de l'Académie française, autour de livres au contenu et au titre aussi mémorable que « Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ?» L'art presque perdu de ne rien faire. Vous revenez avec un nouveau livre, « L'exil vaut le voyage », c'est chez Grasset. Et comme c'était le cas avec « L'autoportrait de Paris avec chat », eh bien il s'agit d'un livre écrit et dessiné à la main, jusqu'au numéro ISBN, jusqu'au copyright, autant dire dans ses plus infimes détails. C'était important d'aller jusqu'à ce niveau de précision, Dany Laferrière ?
Je pense que le jeu pouvait aller jusque-là. C'est amusant de tout faire à la main. C'est cousu main.
Ouais.
Tout est à la main.
C'est une réaction à, je sais pas, à la technicité de notre monde, l'artificialité du monde, retrouver l'artisanat.
Non, j'avais envie d'écrire à la main. Vous savez, la main, c'est le plus vieil outil de l'homme. Et j'ai trouvé que c'était scandaleux de perdre cet outil sans raison et de remplacer toute la main par un pouce. Et la petite poussette de Michel Serres, on se souvient. C'est magnifique écrire à la main. C'est du dessin organisé.
Je pensais à une chose, Dany Laferrière, en citant le titre de ce livre, hein, « Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ?» Il est traduit aux États-Unis, ce livre, en anglais.
Oui.
Et avec quel mot ? Parce qu'on ne peut plus dire le mot « nègre » qui serait « nigger », c'est ça, c'est le « n-word », comme on dit. On ne doit plus le dire.
Oui, ils l'ont traduit avec « nigro », je crois que c'est « black ». Mais ils ont traduit, mais ils l'ont traduit par le titre d'un chapitre. Why must, pourquoi un écrivain noir doit-il toujours écrire à propos du sexe ?
Qu'est-ce que vous pensez justement du fait que certains mots, comme justement le mot « nigger » en Amérique, ne puissent plus être prononcés ? Est-ce que c'est un bien ? Un progrès ?
Tous les mots ont leur place. C'est une insulte, ça fait la richesse du dictionnaire autant qu'un mot bienveillant. Et il faut quand même pas censurer les mots. Les mots ont circulé à travers les ans, pour certains à travers les siècles. Ils ont une raison d'être. De toute façon, on peut toujours les subvertir. Et par exemple, un Américain, l'insulte, c'est Yankee. Mais si le grand stade de New York s'appelle Yankee Stadium, donc il y a plus, ce n'est plus une insulte. Et d'ailleurs, mon premier roman, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, j'ai mis le mot nègre là-dedans au moins 200 fois. Pour qu'à force de le lire, on puisse comprendre. J'ai bien enlevé toute subversion.
Donc rien ne sert de le faire disparaître.
Pas du tout. On a besoin de tous les mots. Parce que si on le fait disparaître sans raison, il reviendra dans sa réalité.
Je vais présenter votre livre dans un instant. Shumona Sinha, vous en pensez quoi de cette question d'ailleurs sur certains mots qui disparaissent ? C'est intéressant d'avoir le point de vue d'un
écrivain. Très intéressant, c'est magnifique.
Pour des raisons qui peuvent être débattues d'ailleurs, discutées.
Évidemment, on ne peut pas dénigrer la réalité en supprimant des mots, en étouffant les mots. Mais l'actualité, la réalité dans laquelle on vit, peut-être il est plus question de découvrir d'autres sens plusieurs sens, multiples, parallèles, même contradictoires au même mot. Et néologisme, on le fait pas si souvent que ça. Mais si on pouvait réinventer les mots, si on pouvait inventer des mots, on pouvait accroître, agrandir.
Ça se fait. Des mots rentrent dans le dictionnaire de l'académie, peut-être.
Ils sortent aussi. Au fil du temps. De toute façon, pas seulement les mots. Dans le livre de Shimona, il y a le livre Mein Kampf. Et précisément, c'est une façon de secouer ce problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ce livre? Est-ce qu'on le cache et...
Ou est-ce qu'on le préserve, comme elle le fait d'ailleurs?
Alors justement, c'est une scène qu'on voit, scène d'auto-da-fé, qu'on brûlait les communistes, brûlait l'exemplaire de Mein Kampf à Calcutta. Ça, c'est un fantasme. Voyez, dans ma part, quand j'ai découvert il y a quelques années que Mein Kampf est un best-seller en Inde, et que, étant donné que l'Inde aujourd'hui est en proie de fascisme hindouiste, il y a des pogroms des musulmans et qui disent ouvertement...
Vous dites fascisme,
hein. Ouais, oui, c'est du fascisme. Mmh. C'est le parti RSS, la milice qui a été fondée en 1925 en s'inspirant de Hitler et de Mussolini. Et c'est écrit noir sur blanc par les fondateurs de cette milice-là que ce que l'Allemagne nazie a fait à l'égard des juifs, c'est ce qu'il faudrait faire à l'égard des musulmans en Inde. Et c'est ce qui est en train de se passer en Inde. Donc, il y a quelques années, quand j'ai découvert que Mein Kampf est un best-seller en Inde, que les jeunes générations, les étudiants disent que oui, Hitler, c'est un chef vaillant qui s'est occupé de son peuple, il a suivi un agenda, il s'est respecté un agenda. Donc, c'est ça, c'est quand même assez grave. Et à la réélection de chef d'État indien, sur les réseaux sociaux, c'est la part infime, pas visible, tout ce qu'il y a derrière, qui versent leur venin, qui disent ouvertement que Narendra Modi, c'est notre nouveau Hitler, tant mieux, etc. Donc c'était assez nauséabond. J'ai voulu en parler et effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec un livre tel que Mein Kampf? Est-ce qu'on le brûle? Est-ce qu'on le garde? J'ai jamais vu dans toute ma vie en Inde, à Calcutta, que les militants communistes ont voulu interdire ou bannir, violer ou même s'intéresser à Mein Kampf. Vous voyez, c'est comme si une culture parallèle, souterraine, maintenant elle n'est plus souterraine, elle est visible, ça continue et ça dérange personne, ça choque pas.
C'est-à-dire votre héroïne, on va en parler, mais elle le préserve, elle le récupère, elle le garde.
Première scène, je lui ai permis qu'il le garde, mais après, quand elle va tenter de le lire, c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir qu'est-ce qu'il y a dedans.
Je reviens à la présentation de vos livres. Donc, ce nouveau livre, L'exil vaut le voyage d'Annie Laferrière, c'est un livre où, comme dans le précédent, donc on l'a dit, hein, il est dessiné, il est écrit à la main, où vous nous parlez de vous, de votre vie, des rencontres que vous avez faites, avec des gens, avec des livres, avec des souvenirs aussi qui reviennent, c'est ce qu'on appelle un parcours, mais sous l'angle de ce qui a été le premier pas vers l'ailleurs, l'exil, quand en 1976, vous avez dû fuir Port-au-Prince, en Haïti, pour fuir la dictature, et peut-être la mort, hein, d'ailleurs, il en était question. Et c'est un exil que vous confrontez à celui des autres, celui de Toussaint Louverture, de Madame de Staël, d'Ovide, on en a parlé, et de votre mère, c'est d'ailleurs l'exil qui clôt le livre et qui dit que celui qui reste vit l'exil plus durement que celui qui part. C'est très beau, c'est très étrange, c'est très chatoyant. Ça impose peut-être aussi un autre rapport à la lecture, à l'écriture, à la littérature. Et cet exil, c'est ce qu'on retrouve aussi dans votre livre Shumana Sinha, Le Testament russe. Donc c'est chez Gallimard. Alors, je rappelle que vous êtes né en Inde, donc à Calcutta, en 73. Vous êtes arrivé à Paris en 2001 pour y suivre des études littéraires à la Sorbonne. Vous êtes l'auteur d'Assommons les pauvres en 2011, un titre emprunté à Baudelaire, quand même, on peut le dire, pour un livre très salué, où vous racontiez le parcours et la contradiction, parfois explosive, d'une jeune femme exilée, encore une fois, devenue interprète, chargée pour l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de traduire, d'interpréter les récits des demandeurs d'asile arrivés, comme elle, dans un pays qui n'est pas le sien. Et cette question de l'exil, on la retrouve justement dans le Testament russe. Même, finalement, double exil, au fond, un exil, donc l'exil de Tania, qui est une jeune Bengalie dans les années 80, donc du Bengale, d'un pays où les vaches sont plus précieuses que les femmes, c'est ce que dit l'autre personnage féminin du livre. Tania, donc, elle est passionnée de littérature russe, elle va se prendre de passion pour un éditeur de légende, Lev Moïsevitch Kliatchko, le créateur des éditions Raduga, qui veut dire
Rainbow, arc-en-ciel.
L'arc-en-ciel. Fermé en 1930, et qui va écrire à la fille de Lev Moïsevitch Kliatchko, Adèle, qui, elle, a suivi toute cette aventure éditoriale incroyable, à un moment compliqué, où la Russie s'acharnait contre les poètes. Donc c'est une sorte de passerelle, en fait, qui va s'établir entre ces deux femmes d'univers différents. Et Ce que j'avais envie de vous demander pour commencer, c'est que, évidemment, vous en profitez pour nous faire un portrait de cet état de la littérature russe, du rapport entre la littérature russe et le pouvoir, mais surtout, la question, parce qu'elle a aussi à se rebeller par rapport à ses parents, lire devient une forme d'acte politique. Est-ce que la littérature, et c'est aussi ce qui vous réunit tous les deux, est-ce que c'est pas d'abord, je veux dire, le premier instrument d'exil, mais d'exil volontaire? Après tout, c'est par les livres qu'on s'échappe. Dans vos deux livres.
Pour ma part, je dirais pas tout de suite que c'est l'exil. L'exil, c'est un mot très fort, c'est très douloureux. Pour les gens qui subissent l'exil, c'est quelque chose de très douloureux. Donc moi, je pense que pour moi, c'était plutôt un voyage, se réinventer une nouvelle vie, une vie parallèle, une vie meilleure même. Mais j'employerai pas le terme exil. C'est un mot chargé. Tout à l'heure, on parlait des mots. Il faut redonner un nouveau sens. Je suis complètement d'accord. Mais pour l'instant, je vais employer plutôt le terme voyage et nouvelle vie, réincarnation. Pour la lecture.
Précisément.
L'exil vaut le voyage. L'exil vaut le voyage. Voilà. D'ailleurs, vous avez remarqué, tous les Occidentaux que j'ai mis dans le livre, même Hugo, ils se plaignent sans cesse. Et c'est pour cela. Précisément, ils donnent au mot exil cette couleur et de douleur que je n'ai pas eu à vivre. Vous savez, bien sûr, si vous arrivez à 50 ans en exil avec des enfants et que vous devez rapidement prendre pied dans le pays, c'est pas la même chose que si vous arrivez à 23 ans. Et j'avais tout de suite redéfini le mot. À 23 ans, qui n'a pas envie de voyager? Le mot voyage n'est pas un mot très simple non plus. On a donné ce mot à l'Occident, aux jeunes gens de France, d'Allemagne, des États-Unis. Ils peuvent voyager. Nous ne pouvons que partir en exil. Et j'ai voulu me réapproprier ce mot de voyage. Et à 23 ans, on voyage. C'est le dictateur qui définit notre condition, qu'il appelle exil. Moi,
absolument,
je l'ai appelé voyage.
Oui, c'est ça. Il s'agit aussi de battre en brèche.
Mais je crois, moi, ce que j'ai aimé, et dans son livre, c'est d'abord les livres.
Dans le livre de Schumana.
C'est d'abord les livres. L'objet physique, réel, concret. Parce que c'est vrai, on ne peut pas lire si on ne voit pas les livres. Et là, cette description m'avait touché. Les livres, elle écrit, ils étaient stockés en pile, innombrables, comme vissés et boulonnés les uns contre les autres, formant l'entrée, le comptoir, le plafond et les murs. Qui ne peut pas rêver à un tel endroit? Quel château est plus beau à vivre que celui-là?
Oui,
celui fait de livres.
C'est la librairie du bouquiniste, en fait, Prakash, qui est le père de votre héroïne. Parce que si elle a la chance de grandir parmi les livres, c'est aussi parce que son père a ses tours de livres.
Mais il a peur des livres, enfin de l'action que peut avoir ces livres sur la sensibilité d'une jeune femme. Mais il ne peut pas s'empêcher de s'entourer de livres. Ça a une action, précisément.
Alors, donc, exil, quand je questionnais Shumana Sinha sur le fait est-ce que la littérature n'est pas, au fond, un instrument mais d'exil qui serait volontaire, alors on peut dire de voyage, mais en tout cas de changer de patrie, je pensais à des passages d'ailleurs de chacun de votre livre, Daniela Ferrière, puisque vous avez fait l'amitié de lire un passage du livre de Shumana Sinha. Je vais demander à Shumana Sinha de lire juste ce passage séché donc dans le livre de Dani. C'est le premier orgasme par les mots.
Le premier orgasme par les mots. Je grelottais ce jour-là de fièvre. J'ai eu une fiévreuse. J'ai commencé la lecture de ce livre, curieusement sans couverture, de sorte que j'ai ignoré pendant longtemps son titre et le nom de son auteur. La fièvre grimpait au fur et à mesure que je m'enfonçais dangereusement dans le sable mouvant de cette lecture. Je sentais qu'il se passait en moi quelque chose de terrible, de monstrueux même. Mon sang coulait à flot et à tort, à toute allure, dans mes veines. Ce n'était décidément plus les gentilles histoires que m'en faisait lire mon grand-père, mais quelque chose de plus dangereux, le sexe interdit, le sexe qui bouleverse l'ordre social. Je n'ai su que bien plus tard que cet auteur n'était nul autre que D.H. Lawrence et son livre « L'amant de Lady Chatterley », c'est à l'aube que j'aime lire.
Voilà, magnifique, c'est pas mal,
magnifique.
Non? Qu'est-ce que ça fait? Du coup, l'écriture manuscrite de La Ferrière, lue par Shumana Sinha. Non mais au fond, on change de monde quand on lit. C'est ça, quand je disais d'exil, c'est qu'on change de monde.
10 ans de voyage, c'est vrai. Et on change de monde, on change de siècle.
Oui, exil, vous voulez pas, j'ai plus le droit de le prononcer.
Non, c'est parce que ce mot a une signification extrêmement intéressante et extrêmement forte, violente même parfois. Et pour la lecture, le plaisir de lire, de changer de siècle aussi. On change de guide. et surtout parce que nos mamans nous disaient de ne pas suivre les inconnus. Et lire, c'est suivre un inconnu.
Alors on fait la réciproque, Daniela Ferrière, un petit passage de Schumann Asina qui est presque en écho avec justement ce passage sur D.H. Lawrence que Schumann Asina a lu et qui vient, lui, de votre livre, Daniela Ferrière.
Mais les pages filaient et Tania tomba nez à nez avec la sœur cadette et ses seins verts comme les pommes du jardin du duc. Elle eut alors une vision incroyable. Les seins avaient été jusqu'alors blancs, noirs, dorés aux couleurs d'argile. Le souvenir des seins de sa mère étant désormais plus pâle qu'un nuage de lait, il lui restait les déesses, voluptueuses et fières, encombrées de saris soyeux et de bijoux clinquants. Les seins d'une jeune femme russe apparurent sur cette terre aride pour jeter une ombre verte et délicieuse.
Merci.
Quel honneur. Merci Dani.
C'est vrai qu'il y a quand même une sensualité extraordinaire dans son écriture et qui donne quelque chose comme un voile de soie sur tout le livre et qui nous sauve des passages qui sont parfois durs.
Exactement. Mais on change aussi de monde. C'est-à-dire que soudain, les couleurs, grâce à la littérature, changent. Les seins n'ont plus la même couleur.
Oui. Ça, c'est que c'est imaginaire qui s'inscrit, qui se dessine petit à petit chez le lecteur. Quand on lit Tania, la petite fille, jeune fille adolescente, qui continue à lire la littérature russe, c'est la juxtaposition des vies et des images et des rêves. Et ça, ce que j'ai trouvé toujours incroyable, pas seulement c'est Tania qui m'en ressemble beaucoup, mais chez beaucoup de Bengalis qui ont grandi avec la littérature russe ou américaine. Pour l'instant, j'ai parlé de la littérature russe dans mon livre. Ce mélange et juxtaposition, c'est cette confusion même, une confusion heureuse des vies, du corps, des rêves et des amours qui continuent.
Et des couleurs aussi. Ça flotte un peu dans l'air, cette phrase, sûrement pour quelqu'un comme vous qui était intéressé par la culture russe. Pourquoi le cheval vole-t-il? Pourquoi il est bleu? C'est un peu tout le socialisme qui a posé cette question par rapport à l'art et qui est au cœur de ce livre aussi. C'est-à-dire éliminer toute fantaisie de la littérature et remplacer ça par quelque chose de matériel, de très concret qui pourrait aider les enfants des ouvriers à avoir une vie consciente, raisonnable et efficace.
On va continuer avec vous, Dani Laferrière, et vous, Schumann Asina. On écoute votre choix musical, Dani Laferrière. Vous avez choisi Nina Simone qui chante Brel.
Oui.
Ne me quitte pas.
Et devant moi, j'étais là, je venais d'arriver à Montréal, j'ai grimpé un petit escalier raide à un endroit qui s'appelle Soleil Levant, et j'ai vu une salle presque vide. J'étais assis à côté d'un homme, plus tard j'ai su que c'était Dizzy Gillespie, le premier soir de mon arrivée. Et sur la scène, Nina Simone chantait Brel. Et c'est extraordinaire, et comme ça, je n'ai pas eu une soirée aussi magique.
Ne me quitte pas.
France Culture.
Il faut oublier tout.
Le temps des écrivains.
Souliers.
Christophe Onodibio.
Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois. À coup de pourquoi. Le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfuirai des balles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer.
ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Nina Simone qui chante Brel, Ne me quitte pas, c'est le choix de Dany Laferrière qui publie chez Grasset L'exil vaut le voyage. Il est en compagnie de Shumona Sina qui publie Le testament russe chez Gallimard. Donc Dany Laferrière, vous l'avez entendu chanter le premier jour de votre exil.
Oui, c'est comme ouais. ça. Ouais. Elle chantait, elle avait un verre de rhum dans une main, une cigarette dans l'autre. Je me souviens qu'elle regardait par la fenêtre et c'est là que je me suis dit, je voudrais écrire comme ça. Mmh. Les deux mains occupées. Et ce regard, mais c'est un regard terrible. C'est une femme qui a connu beaucoup de situations extravagantes, difficiles, et terrifiantes. Et on le voit dans chaque son de sa gorge. C'est... Et bien voilà.
Et elle chantait avec son verre de rhum. Elle était là.
Oui, un verre magnifique. De rhum, une cigarette lointaine, malgré cette petite salle à moitié vide. Elle chantait, c'était ça.
Magnifique.
Ce luxe.
Prix Médicis pour l'énigme du retour, membre de l'Académie française autour de livres, je me disais tout à l'heure, au contenu et au titre explosif. Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? L'art presque perdu de ne rien faire. Il y en a plein, comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, voilà, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous revenez avec ce nouveau livre, L'exil vaut le voyage, chez Grasset. Et comme c'était le cas avec Autoportrait de Paris, avec Chat, eh bien c'est un livre qui est entièrement écrit et dessiné à la main. C'est-à-dire que c'est pas du tout ni tapé à la machine ni rien, c'est manuscrit. C'est un livre où, comme dans le précédent, vous nous parlez de vous, de votre vie, des rencontres que vous avez faites avec des gens ou avec des livres. Bon, on parlait de Nina Simone là à l'instant. Ou avec des livres, il est énormément question du plaisir de lire, du plaisir aussi de connaître la vie des écrivains, des souvenirs, bref, de votre parcours, mais vu sous l'angle de ce qui a été le premier pas vers l'ailleurs, je le rappelais tout à l'heure, l'exil, quand, en 1976, vous avez dû fuir Port-au-Prince en Haïti, l'Haïti de la dictature. C'est un exil que, dans ce livre, vous confrontez à celui des autres, celui de Toussaint Louverture, à celui de Madame de Staël, à celui d'Ovide, à celui de votre mère aussi, c'est assez touchant. On lira tout à l'heure d'ailleurs, puisque votre mère n'est pas partie, mais elle a vécu l'exil, puisque c'est celui qui reste vit l'exil plus durement que celui qui part. Alors c'est très beau, c'est très étrange de vous lire à l'intérieur de vos mots, dans votre écriture, entre vos dessins. Cocteau, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans une émission, disait que l'écriture n'était que du dessin organisé. C'est une profession de foi aussi contre la vitesse de l'époque. Il faut prendre le temps pour lire ce livre aussi. Et pour l'écrire, certainement, il faut recopier.
Et puis, c'est une possibilité qu'on a. Il faut l'utiliser. On peut écrire à la main. Il ne faut pas croire qu'on a perdu la main. C'est un plaisir de le faire. Et depuis mon entrée à l'Académie française, la plupart de mes lettres, je les fais à la main parce qu'on nous donne du papier et des enveloppes à l'Académie. Vous savez, ça calme les gens quand ils reçoivent une lettre à la main. Ils ne se précipitent pas pour vous demander les mêmes questions. Avez-vous reçu mon message comme sur Internet? Et ça fait 2 heures que je vous ai écrit. Non, ça doit passer par le bureau postal. Et quelqu'un doit aller chercher l'enveloppe, vous donner votre lettre et vous enlevez la lettre de l'enveloppe, vous la lisez, et vous prenez un peu de temps avant de répondre. Donc pour moi, et tous ces actes intermédiaires, toutes ces petites actions minuscules, en fait, mais qui forment le tissu de la vie, on devrait les reprendre. On les a perdus sans raison.
C'est intéressant que vous parliez de temps, parce que vous avez dit parfois cette phrase d'Annie Laferrière qui est très belle et que je voudrais citer. « Mon enfance me manque beaucoup, parfois plus que mon pays. L'exil du temps est plus profond que celui de l'espace. »
Oui, on peut toujours retourner à l'endroit. Il y a toujours des fois une parenthèse, une accalmie, si l'on peut dire. Mais pour celui de l'enfance, on a peut-être que cette nostalgie qui flotte dans le roman de Shumona et qui nous reste, et une odeur qui peut faire exploser la mémoire et nous ramener à des temps et qui furent durs, mais qui, sous la plume d'un écrivain, apparaissent toujours un peu plus émouvants, plus acceptables.
Je voudrais savoir comment vous avez travaillé pour ce livre, parce qu'on a l'impression, quand je disais, effectivement, c'est un autre rapport au temps qu'il implique, certainement pour l'écriture, ça je vais vous interroger là-dessus, mais en tout cas pour la lecture, parce qu'en fait, on doit se faufiler dans les pages, on s'arrête pour regarder le dessin. Parfois, le texte est mangé par un dessin qui vient avec ses couleurs, donc il faut vraiment regarder sous l'image. On peut l'ouvrir, j'ai l'impression, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais où on veut, c'est-à-dire, voilà, ce sont des chapitres à chaque fois qui ouvrent des fenêtres, donc sur Ovid, par exemple, en exil, sur Hemingway, sur un autre exil, Nabokov.
Oui, aussi. L'exil dans une autre langue, hein, ce russe qui a écrit peut-être le roman américain le plus américain de l'après-guerre, Lolita. C'est un exil, hein, sur les Amas Lima, et cet écrivain cubain qui a écrit Paradiso. Mmh. Et il était énorme, hein, c'est un homme très pesant, il était homosexuel, enfin tout ce que la révolution cubaine ne voulait pas, et il a écrit un gros livre hermétique. Alors il a dit à un moment donné, si la révolution mangera mon livre, sinon c'est mon livre qui la mangera. Et j'ai imaginé qu'il l'a fait pour pouvoir s'y perdre, mais physiquement. Entrer dans son livre et se cacher.
Petit clin d'œil à Choumanassina sur Tolstoï, voilà, ces pages. Alors oui, parce que même les numéros de pages sont à la main, hein, 282. Donc Tolstoï est dessiné. Pour écrire Guerre et Paix, il faut une longue barbe, un regard de fou mystique, une petite cabane, un hiver interminable, une vareuse de moujik et du temps. Oui. Devant soi. On y revient.
Le temps, on revient, c'est pas des œuvres approximatives.
On a l'impression que c'est une œuvre vie aussi. Il y a plein de morceaux de votre vie, de souvenirs. Donc comment vous travaillez? C'est-à-dire que est-ce que vous recopiez à la façon d'un moine copiste?
Bénédictin.
Parce que vous avez écrit énormément de textes sur votre machine à écrire quand vous êtes arrivé, vous avez commencé là-dessus.
J'en ai fait un personnage.
Exactement.
La Remington.
La Remington. Donc là, comment c'est d'abord la Remington et puis un travail de recopiage. Les dessins arrivent comment? Qu'on comprenne un peu le mécanisme.
Non, j'ai écrit à la main, je prends des notes et puis je regarde un peu. Et toute la force du livre, c'est le montage des images et de l'écriture aussi. Parce que c'est très important que les couleurs nous appellent, que la forme, c'est la forme du livre est extrêmement importante, parce qu'on va visiter au début. Je ne crois pas que quelqu'un puisse l'ouvrir et se mettre à le lire. Il visite et il est tout étonné de voir qu'il a passé une heure et demie simplement à visiter le livre, comme dans un musée, comme dans une galerie d'art. Il visite parce qu'il y a plus de 1200 dessins. Et donc, il a assez de temps pour vivre le livre de cette façon. Après, il reprend, il regarde un peu ici et là, il prend un morceau. Alors, le livre a été écrit comme ma mère faisait quand elle faisait la cuisine et j'étais toujours à côté d'elle. Elle faisait un peu sauter la viande et moi, c'est ce que j'aime. Et après, elle me disait toujours, ça va être mieux. Je déteste ce qui va être mieux. Je veux la viande légèrement sautée et elle me disait, je vais faire la sauce parce qu'elle était très bonne en sauce. Je déteste la sauce. Je déteste la sauce en littérature aussi.
C'est aussi une forme que vous cherchez, Choumanassina, dans le Testament russe. Un roman, une initiation, mais aussi une enquête sur un personnage oublié.
Oui, je propose un roman qui part à la recherche d'un éditeur juif russe qui a vécu dans les années 20 et 30, qui a fondé une maison d'édition qui s'appelle Raduga et qui a résisté au pouvoir totalitaire stalinien, qui a publié des livres pour les enfants magnifiques, avec les illustrations. Il a rassemblé lui-même les écrivains, les poètes de l'époque, jusqu'à Mayakovsky, Tchoukovsky, Valentin Kataïev et d'autres dessinateurs. Et donc, cette maison a existé pendant 10 ans, tant bien que mal. C'était une maison d'édition qui a eu une collection des livres par les écrivains de l'époque, les plus grands, les plus importants, les plus enchanteurs. Et donc, cette aventure-là que je raconte, que comment on fait quand on est bengali, quand on est à Calcutta, qu'on est fasciné par la littérature russe et qu'on part à la recherche d'un éditeur juif russe qui a vécu dans les années 20. Il n'y avait absolument aucune information là-dessus nulle part. Pendant 2 ans, je suis restée dans les archives russes, un petit peu américaines, un petit peu française, mais surtout une recherche qu'on en fait parfois quand on prépare une thèse. Et pendant 2 ans, je suis tombée malade quand j'ai découvert la vie de Lev Moïsevitch Kliachko, qui a fondé cette maison, qui est mort de tuberculose en 1933. Et donc, c'est cette histoire qui m'a bouleversée. voyez. C'est ça que je suis allée chercher. Et aujourd'hui encore, quand les confrères russes, ils me disent que comment j'ai trouvé la trace de Kliatchko, parce que c'était une aventure incroyable. C'est à Paris, quand la Fondation de la, pour la mémoire de la Shoah, que je découvre le catalogue de la édition Raduga. Et donc, de là, que je pars à la recherche de l'université de Princeton, leur librairie Kodsen, eux, ils m'envoient vers le World Ukrainian Congress. J'écris à plusieurs dignitaires. Finalement, ils me répondent. Il y a ensuite quelqu'un qui me parle d'un éditeur russe installé à Boston. Lui, il me donne, après que je finis par harceler, hein, je le contacte tant de fois, et qu'il me dévoile que finalement, quelqu'un de la famille de Kliatchko est toujours en vie. Je suis bouleversée pendant plusieurs mois. J'étais à la recherche et quand j'entre en relation par mail et par téléphone avec l'arrière-petite-fille de Lev Moïseïevitch Kliatchko, on pleure au téléphone. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un qui est venu le chercher l'histoire dans sa famille. Parce que le nom n'est pas banni, mais personne n'en parle.
Banni de l'internet, vous dites. Hein, voilà, on ne trouve pas grand-chose. À un moment, il y a cette phrase dans le livre.
Kliatchko n'existe pas. Vous ne voyez pas quand je suis allée en Russie l'an dernier pour chercher les traces. Mais il n'y a pas de traces. Par exemple, il y a des plaques commémoratives sur beaucoup de maisons façades, mais là, Kliatchko, où il a vécu, il n'y a aucune indication que c'est lui qui a fondé la maison ou à cette maison-là, Raduga a connu cette maison d'édition. Donc c'est ça qui m'intéresse, vous voyez, cette recherche-là, passionnée. Ce n'est pas un livre sur Kliatchko, ce n'est pas un livre sur tout ce que je sais sur Kliatchko, c'est un livre sur tout ce que je ne sais toujours pas sur Kliatchko.
Mais j'ai l'impression, c'est vrai, au fil de cette émission, des écrivains, des écrivaines qu'on reçoit ici, qu'il y a de plus en plus aussi, comme si c'était une nécessité, de livres parlant de la littérature, convoquant des figures d'écrivains, comme si peut-être on vivait dans une époque qui avait tendance à les oublier. Peut-être,
Une époque bilan.
Exactement.
C'est-à-dire cette grande aventure du livre qui a commencé il y a très longtemps, qu'à un moment donné, on prend le temps. C'est vrai que l'affaire de l'Internet, c'est une rupture assez forte. On prend le temps de rappeler le livre fait main, le livre... Et ce que j'ai aimé, enfin, Simone a parlé de cette enquête, mais il ne faut pas que l'on pense qu'il s'agit d'une enquête. C'est vraiment écrit, c'est vraiment romanesque. Et il y a une partie qui est extrêmement importante. Ce n'est pas du tout une façon de conduire l'enquête ou de nous amener à l'enquête. C'est l'enfance, c'est l'adolescence de cette petite fille, Tania, et son rapport avec sa mère, et le rapport, le père, et le livre. Enfin, il y a quelque chose qui mène à ce goût d'aller chercher, d'aller déterrer un éditeur comme ça pour essayer de voir la trace du livre quand il se faisait fantaisie. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est qu'il y a des bâtiments extrêmement lourds et construits à la russe de l'après-guerre et qui installent des maisons d'édition solides. Mais derrière tout cela, en bas, il y a une toute petite maison d'édition, Raduga, qui a publié dans la plus grande fantaisie, même jusqu'à l'économie. Mayakovsky est allé parce que quand il a entendu que chaque verre est payé un rouble, alors quand on payait à l'époque chaque livre un rouble, donc il y a une énorme fantaisie chez cet éditeur-là, et ces quelques livres, c'est un peu à peu près comme le nuage en pantalon de Mayakovsky dans le genre.
Et donc il fallait ranimer un peu ce souvenir, ce que vous faites très
rappeler
bien.
Rappeler aussi que ça se sur presque rien, c'est léger, c'est le nuage en pantalon. Et que tout cela, toute cette monstruosité, cette lourdeur de l'architecture et de la puissance et d'une culture, s'assoit souvent sur des petits textes remplis de fantaisie et qui ne s'adressent aucune morale, et rien du tout, juste pour le plaisir d'entendre des mots.
Mais sur cette idée de bilan, justement, de bilan d'une époque, de convoquer des figures d'écrivains, c'est aussi ce que vous faites, Danila Ferrière, dans L'Exil vaut le voyage, hein, puisque on parlait de ces grandes figures, on a parfois l'impression de se promener dans un club, le club des exilés écrivains, hein, Victor Hugo, Madame de Staël, Nabokov, Toussaint l'Ouverture, il y en a énormément.
Toussaint l'Ouverture, j'aimerais bien que les gens lisent cette fameuse lettre, je crois que c'est la seule page où j'ai pas fait de dessin, parce que la lettre est extraordinaire, je vais même pas en parler pour donner ce goût-là, mais c'est pas du tout pour évoquer des grands écrivains connus, c'était pour montrer leur rapport avec l'exil. Victor Hugo, quand il part en exil, ce qu'il découvre, c'est que il apprend comment on construit une maison, qu'est-ce qu'on y met dedans. Parce qu'il lui faut une maison à telle place, sur la place publique, une autre pas trop loin, une pour Adèle et lui, l'autre pour sa maîtresse. Et donc, Victor Hugo passe son temps à changer d'endroit et à chaque fois à refaire l'intérieur de sa maison. Donc chaque personne, il lui arrive des choses extrêmement pratiques. Et Ovid, il arrive là-bas, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il apprend la langue du pays, il écrit une grammaire de cette langue. Donc l'exil pousse à l'ouvrage. Parce que il faut faire bouger les mains, la tête, il faut faire quelque chose avec soi, sinon on devient fou. Il faut apprendre quelque chose qu'on ne savait pas.
Vous me demandez si je désire de la considération, des honneurs, des richesses. Oui, sans doute, mais je ne veux point les tenir de vous. Ma considération dépend du respect de mes compatriotes, mes honneurs de leur attachement, ma fortune de leur fidélité. Me parle-t-on de mon grandissement personnel dans l'espoir de m'engager à trahir la cause que j'ai embrassée ? Vous devriez apprendre à juger des autres par vous-même. Si le monarque qui sait avoir des droits au trône sur lequel vous êtes assis vous commandait d'en descendre, que répondriez-vous? Voilà, c'est un extrait de cette lettre.
Ce sont les paroles d'un ancien esclave, Toussaint Louverture, qui est devenu général en chef des armées françaises et gouverneur général de l'île, qui a appris à écrire et à lire par son parrain, qui est un ancien esclave lui aussi, ancien nègre. Cette lettre a été écrite en face de la gueule du crocodile, et c'est-à-dire Napoléon Bonaparte avait envoyé en Haïti 86 bateaux de guerre et 22 000 hommes pour rétablir l'esclavage. Et sur le bateau sont arrivés les deux fils de Toussaint Louverture, en une forme de cadeau, qui était presque pris en otage en France. Et Napoléon lui envoie pour qu'il puisse comprendre qu'il doit se mettre avec lui. Toussaint refuse ce cadeau, renvoie ses fils en France, enfin propose de renvoyer ses fils, dit-il, je ne veux rien de voir de mes ennemis. Même pas mes fils. Donc, et la conversation commence, c'est une très longue lettre. Je crois jamais on a parlé à Bonaparte sur ce ton et à cette hauteur.
On parlait de forme tout à l'heure avec Shumon Hassina, justement, cette forme de l'enquête, hein, mais qui est aussi un véritable roman. Tout roman, après, n'est-il pas une enquête? Vous êtes à la recherche d'une nouvelle forme, visiblement, avec ce livre, avec L'exil vaut le voyage. Qu'est-ce que vous cherchez à inventer et à provoquer chez le lecteur?
Je cherche ce que je n'ai pas trouvé. Non, je cherche à ne pas m'ennuyer, d'abord. Écrire et lire, pour moi, prennent leur source dans l'ennui. Je m'ennuie très vite, donc je cherche à ne pas m'ennuyer. Et à chaque fois, je le fais de façon très discrète parfois. Mais L'énigme du retour, c'est un roman en poème. Et à chaque fois, on me dit la même chose aussi. Il y a quelque chose de neuf. Et c'est pas neuf pour moi, c'est ma manière d'être. Il y a des enfants qui sont comme ça. Et ça ne veut rien
mais
dire.
Mais c'est quitter
plus
le roman aussi, c'est d'inventer autre chose que le roman.
Ouais. De m'amuser. J'aime bien quand ça devient un peu un défi. Par exemple, on peut me dire, ça peut pas être en livre de poche, ça peut pas être traduit, même si les Chinois sont en train de traduire Autoportrait de Paris avec chat. Mais ça me dit rien tout ça. Mon plaisir est là. Et je l'ai pris à faire ce livre. Et s'il le faut, je referai.
On en prend beaucoup aussi. Je voudrais qu'on vous entende lire un passage de L'exil vaut le voyage. C'est L'exil de ma mère.
Ah, L'exil de ma mère. C'est ma mère. Chaque fois que je le voyais, elle surgissait d'un bosquet de lauriers roses avec cette étrange lueur dans les yeux qui donne l'impression d'un autre monde. Elle respirait fortement puis s'asseyait en reprenant ce calme qui la caractérise généralement. Je me suis toujours demandé comment elle faisait pour se battre contre cette vie quotidienne criblée de petits désastres intimes et garder du fond d'elle cette source jaillissante de poésie. À bien y penser, je n'ai jamais vu se mettre au coin de l'oreille un brin de laurier rose. Ce qui m'émeut, c'est l'impression de me trouver en face d'une femme que je ne connais pas, la jeune fille d'avant ma naissance, qui traînait dans son sillage un parfum de fleurs, parfum d'exil. Ma mère voit sa vie s'effacer sous ses yeux, à chaque exil, celui de mon père d'abord, puis le mien 20 ans plus tard. J'ai mis longtemps à comprendre cette équation pourtant simple. Celui qui reste vit l'exil plus durement que celui qui part. Durant quelques années, après le départ de mon père, ma mère refuse de toucher à tout ce qui appartenait à mon père. Ses vêtements sont restés accrochés au même clou, et même la cuvette d'eau bancale où mon père se rafraîchissait avant de retourner au travail. Elle a tout enlevé quand j'ai publié mon premier article dans le quotidien Le Nouvelliste. « Comme ton père », m'a-t-elle dit simplement.
Merci Daniela Ferrière. L'exil vaut le voyage et l'exil vaut le voyage vaut le détour. On continue avec vous, Shumana Sinha. Je voulais qu'on termine par ce personnage de mère parce qu'il est question d'un personnage de mère dans le testament russe, mais pas du tout aussi bienveillante que celle qu'on vient de découvrir à travers les mots de Daniela Ferrière. Je rappelle que le testament russe est en fait un livre qui se construit un petit peu en miroir. C'est-à-dire qu'on découvre d'abord l'existence d'une lettre qui a été envoyée à une vieille dame à Saint-Pétersbourg. Cette vieille dame est la fille d'un éditeur légendaire mais réel, hein, qui s'appelait Kliatchko, sur lequel vous avez enquêté, Lev Moïsevitch Kliatchko, le créateur des éditions Raduga. Et elle reçoit une lettre d'une fille qui est une indienne du Bengale, qui s'appelle Tania, qui est absolument folle de littérature russe et qui a trouvé dans cette littérature finalement le moyen de quitter cette famille oppressante, cette tradition aussi indienne oppressante. Et le livre, je disais, se construit en miroir car il y a cette lettre, il y a ensuite la vie de Tania et cette découverte notamment de Gorki qui va être la passerelle entre ces deux femmes, et puis aussi l'histoire dans un dernier temps de la fille de l'éditeur Kliatchko. Et c'est un portrait, un grand tableau que vous nous donnez de cet éditeur génial qui s'est battu contre le pouvoir, qui a célébré la poésie et qui a dû finalement fermer sa maison d'édition et disparaître, c'est ce que vous nous disiez, pratiquement de l'histoire quoi. Vous dites il est banni de l'internet. Je dis banni de l'internet parce qu'aujourd'hui tout est sur internet, c'est bien connu. Bah, lui non.
Donc je suis partie à la recherche de ce personnage là et c'est une histoire d'enquête. Donc il y a une part humaine très importante dans cette histoire, dans cette aventure littéraire romanesque. Je suis partie à sa recherche et puis finalement c'est une recomposition.
Mais comment
c'est
vous l'avez trouvé? Comment vous êtes tombée sur ce personnage qui a disparu? Comment vous avez rencontré Kliatchko?
Alors, j'étais en train de préparer ce livre sur la littérature russe, littérature enfantine de jeunesse russe, traduite largement en bengali et en anglais. Et donc, en cherchant ça, je tombe sur le catalogue d'une exposition qui a eu lieu à Paris en 2015 par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et là, je découvre, je retrouve mes livres de jeunesse. J'ai encore ces livres-là chez moi. Quand je pars quelque part en voyage, je mets ces livres russes dans le coffre de ma banque parce que je sais que ces livres-là, que j'ai depuis plus de 45 ans presque, je les retrouvais pas. Donc c'est à ce point cher pour moi, précieux pour moi, si vous voulez, ces ouvrages même. Donc il y a un rapport tactile charnel très réel avec ces livres-là. Et donc je retrouve ces livres-là sur le catalogue. Par contre, je connaissais pas, quand j'étais enfant, adolescente à Calcutta, je connaissais pas l'histoire derrière toutes ces histoires. Je me suis pas intéressée à ces petites maisons d'édition qui ont survécu malgré le pouvoir totalitaire soviétique, vous voyez. Donc, quand je découvre, je tombe sur un petit paragraphe sur Kliatchko, qui est fondateur de la maison d'édition Raduga. Il est mort de tuberculose. Et pour moi, vous voyez, je viens de Calcutta, même si j'ai un petit peu construit ma vie littéraire en France, mais mourir de tuberculose, c'est quelque chose comme un malheur injuste. Vous voyez, pour un homme de lettres qui a construit, s'est bâti une maison qui nous a offert pendant toutes ces années, même si c'est pas la même édition originale.
Il nous a offert de l'air en plus.
Il nous a offert le rêve. Il nous a offert le rêve. Et là, donc, j'arrivais pas à accepter. Je suis tombée malade. Je pouvais pas accepter. Donc, je l'ai contacté, cette fondation à Paris, où ils m'ont dirigé vers Kodzen, et l'ambassade de la Russie, l'ambassade de l'Ukraine, conseil culturel au téléphone, Dola a écrit à World Ukrainian Congress, et c'est ainsi que, au fur et à mesure que je découvrais, je faisais l'enquête et j'ai construit, et je dis encore que c'est pas un livre sur Kliatchko ou tout ce que je sais sur Kliatchko. Je ne sais pas s'il avait l'air d'un moujik. Je ne sais pas s'il y avait un tic nerveux pour passer les doigts dans les cheveux. Si quand l'édition Raduga a été fermée, si on l'a trouvé sur les dalles au bord de la rivière Moïka, je sais rien de tout cela. Tout ça, c'est inventé.
C'est pour ça que les romans sont là, de toute façon.
Oui, j'espère bien, voilà.
Et qu'est-ce qui vous fascine à ce point? On parlait de ce club des exilés cher à Daniela Ferrière. Qu'est-ce qui vous fascine à ce point qu'on retrouve justement dans votre personnage chez Tania, votre héroïne, dans la littérature russe venant justement du Bengale, de Calcutta?
Je pense que pour ma part, j'ai un mot étouffé pour la Russie. Depuis mon adolescence, depuis 14 ans, j'ai voulu vivre à Paris, ben, parmi les écrivains, poètes, artistes, peintres. Et toutes ces années, j'ai tout fait pour construire cette vie à la française. Mais Le début était avec la littérature russe. Mes premiers contes de fées, c'était pas les contes de fées bengali ou indien, c'était le conte de fées russe. Matryona Ivanovka, Petrushka, le cheval bleu, vous voyez, Savsivka Burka. Tout ça, j'ai grandi avec ça.
Mais j'étais là, parce qu'ils étaient là.
Ils parce qu'ils étaient ouais, là ouais. aussi. Parce
c'est
aussi,
une puissance, c'est comme la France pour les pays de la francophonie. C'est eux qu'on lit.
Ils étaient là parce que aussi, je viens du Bengale, comme le Kerala. Nous avions un gouvernement communiste. C'était pas un régime absolument pas totalitaire. C'était dans la démocratie, c'était l'élection libre, contrairement à d'autres régions en Inde. Et j'ai grandi dans une société qui était laïque, où livre était l'axe vital. Nulle part ailleurs, mais au Bengale, au Kerala, livre était sacré, non pas dans le sens religieux, mais dans le sens éthéré, qui spirituel, qui vous enlève arrache de votre quotidien.
Je pensais à ça quand vous parliez de la tuberculose, que c'était injuste, l'idée que c'est vrai, la littérature nous apporte aussi la respiration, l'oxygène, et donc, on peut pas, un éditeur peut pas mourir des poumons, quoi. Enfin, je veux dire, il y a
déjà
un problème.
Un éditeur ne devrait pas mourir. les écrivains n'en devraient pas mourir. Et donc, oui, c'était bouleversant. Et puis aussi, je viens de Bengale très rouge. Et si aujourd'hui je suis à la littérature, c'est parce que le communisme là-bas présent, le communisme qui n'était pas du tout totalitaire, le communisme dans le gouvernement, dans la société et surtout dans la littérature est là, m'a appris l'empathie. Si j'écris, c'est parce que je m'intéresse à l'autre, je m'intéresse à tous ceux que je connais pas, de comprendre leur vie, de les observer, mais surtout aller me glisser dans leur peau, ce qui m'intéresse. Et l'empathie qui est là, inconditionnelle pour l'humanité, ça vient de la littérature russe. J'écris en français, mais j'ai envie de dire, j'ai l'âme slave, c'est très étrange de le dire.
Mais non, voilà, pourquoi voilà. Il est bien écrivain japonais.
Voilà, exactement. Exactement, oui.
Je voudrais qu'on vous entende lire un passage Shumana Sinha. Alors c'est Tania, donc cette fille de bouquiniste de Calcutta, nourrie par les livres, qu'elle prend en cachette, qu'elle vole même parfois, qui finalement va être conduite à lire pour ses camarades en classe. Et les faire justement rêver, les transporter, on parlait d'exil ou de voyage tout à l'heure, les emmener ailleurs.
Tania s'arrêtait sur chaque détail, exagéré, brodé, suivant les réactions de ses camarades. Le mur des morts bourgeoises au bord de la mer de Crimée devenait de plus en plus haut, les haies de plus en plus épineuses. Le chien n'avait pas d'égal en drôlerie et en courage. Ses poils poussaient plus longs que les pages, de même que les rides du vieux, creuses, crasseuses, ses yeux ivres de vodka et de rêves dérisoires. Les filles éclataient de rire, maudissaient la famille machiavélique qui avait volé le chien, retenaient leur souffle la nuit où le garçon longeait les murs d'enceinte en pas de course, puis soupirait de soulagement lors des retrouvailles. Hommes et chiens couverts de poussière et de brins de bruyère. Depuis, ses camarades comme ses professeurs de langue et de lettres l'invitaient, réclamaient ses histoires. Tel Scheherazadeh, debout sur l'estrade, attrapant la boucle de sa ceinture rouge, elle leur racontait mille et une histoires sur Alyonushka qui ne dormait que d'un œil, les poupées Chippy, Ania et Katia, ainsi que le long pif Pritushka et sa femme nerveuse Martyona Ivanovna. Les deux sœurs Olga et Zenia et leur copain Timur, les fleurs modestes du champ et le mouchon solitaire qui croyait que l'hiver n'était qu'une sale stratégie de l'homme pour tuer tous les mouchons du monde. L'heure avançait, mais il restait parfois encore une poignée de minutes avant la sonnerie. Démarrait alors un épisode inédit. Il ne s'agissait plus de suivre les phrases qu'elle avait lues, mais d'inventer ce qu'elle aurait aimé encore lire. Tania découvrait le pouvoir de ses propres mots qui illuminaient les yeux de ses camarades, les mots qui coulaient et débordaient des pages et qui enveloppaient les jeunes filles hypnotisées comme les lianes sur les statues. Elle découvrait la frontière fébrile entre le réel et l'imaginaire, entre ce qui est écrit et ce qui s'écrit encore, le goût pour l'inachevé.
Merci Shumana Sinha pour cet extrait du testament russe. Effectivement, on ne va pas se faire couper la tête comme Scheherazade menacée à chaque fois, chaque nuit, tout est remis en jeu. Je voulais, en vous entendant lire, je pensais à cela. Quand on écrit dans une langue qui n'est pas sa langue natale, est-ce que ça libère encore plus, même des forces insoupçonnées dans l'écriture?
Alors, vous me posez une question, vital, que ça revient toujours. Je ne vous cache pas que durant toutes ces années, quand les questions se posent sur l'exil, ça a commencé un petit peu à mon, à m'interpeller, en fait, d'où on écrit, d'où j'écris, moi. Je suis pas née dans un pays qui a été colonisé principalement par les Français. La langue française n'était pas là à la naissance, à mon adolescence. Elle n'était pas là. Alors, pourquoi j'ai eu envie d'écrire en français? Je dirais que la langue française, d'abord, c'est une question physique. On est habité par la langue. Les mots en français circulent comme l'air dans les poumons. Quand je me réveille le matin, je sais plus en penser en bengali, en anglais, en aucune autre langue. Je pense en français naturellement. C'est une question physique. Vous voyez, c'est un osmose. Je n'écris pas parce que j'ai commencé à écrire en français. J'ai commencé à écrire très, très tôt.
En bengali.
En bengali. Oui. Mais le français me permet d'altérer autrement ce qui est déjà commencé viscéralement dans mon corps, à l'intérieur de mon corps. Mes mots savaient manier les mots. Dany disait, depuis tout le livre de Dany, c'est manuscrit. Mmh. C'est ça, en fait, ce qu'on fait avec nos mains. C'est ce que j'aime faire avec mes mains, écrire, manier les mots. Mais ce que la langue française me permet, c'est, je pense, c'est une décolonisation personnelle. C'est parce que on était étouffé par la culture linguistique britannique dans toute l'Inde. La constitution indienne, c'est la copie-collée de la constitution britannique. L'école, partout, c'est l'anglais qui prime. Et donc, la langue française me permet de créer mon autre, de créer un ailleurs. Et aussi, j'ai un rapport, comme beaucoup de gens qui sont en contact physique, tactile, avec c'est la peau contre la peau, avec une langue autre, langue étrangère, j'ai ce rapport exagéré, tout est amplifié pour moi. Chaque mot est tellement important pour moi. Je vous raconte juste un petite anecdote. Quand je préparais ma maîtrise à la Sorbonne, il y a eu, à un moment donné, commenté les poèmes de Michaud. J'avais choisi Michaud. Dans le poème, c'était écrit « Mon corps contre son corps ». Et moi, j'ai écrit des pages et des pages sur le mot « contre ». Pour moi, l'amour, c'est « aller contre ». L'amour, c'est toujours envahi d'un espace intime. Et mon professeur m'a rayonné. Pour chaque mot, je vois autre chose, vous voyez. Ce qui n'est pas là, ce qui est là, l'emploi immédiat, classique de chaque mot en français, ce qui est pour un français, qui est quelqu'un qui est né dans la langue française, le rapport qu'il a avec la langue, avec chaque mot, je pense, nous qui venons d'ailleurs, nous avons un autre rapport, c'est toujours un voyage, on va vers la langue française, c'est un trajet qui n'est jamais fini. Je ne suis toujours pas arrivée à la langue française, c'est toujours un voyage, toujours un mouvement.
C'est bien, c'est ce qui compte, c'est le déplacement. Dany Laferrière, vous comprenez quand Shumana Sinha dit que c'est justement une sorte de décolonisation personnelle aussi? Vous avez eu ce rapport là avec la langue française?
Je ne sais pas, mais je ne crois pas dans cette idée de langue maternelle. Je pense que toute langue est apprise. Je crois que la question d'exil amène quelque chose de plus physique même pour cette libération. C'est-à-dire écrire en dehors des gens qui nous ont vus naître et grandir. Toute une population. C'est quelque chose de neuf. Vous voyez, les gens qui parlent à la télévision, à la radio, et qui font des trucs d'humour, ils disent toujours à un moment donné, heureusement que ma mère n'écoute pas. Moi, des fois, c'est heureusement que mon pays n'écoute pas. C'est énorme. Et ça libère beaucoup plus même que même cette décolonisation. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cette posture qu'il devrait avoir, et n'importe quel écrivain, même né en France, c'est se mettre en état d'exilé dans sa propre langue.
Je voudrais d'ailleurs lire un extrait du testament russe qui est tout à fait en écho avec ce que vous disiez, Dany Laferrière. Elle ne savait pas encore qu'elle a laissé prendre un homme mort depuis plus de 65 ans qui lui aussi avait été sauvé par Maxime Gorki. En attendant, la langue étrangère lui devint un moyen d'escapade, une évasion, une chute libre dans le vide. D'abord refuser le lait de la mer, puis la langue, devenir une autre sous la carapace du même corps, sous le masque du même visage, vivre une autre vie, s'inventer un nouveau visage quand celui qu'on possède est désavoué, s'octroyer un nouveau paysage quand le pays ancien devient trop étroit. C'est exactement ce que vous disiez.
Elle vient juste de dire le pays ancien, étroit, le lait maternel. C'est extraordinaire aussi comment un écrivain peut savoir des choses qu'il a oubliées. Et tout à l'heure,
c'est magnifique,
et tout est là.
Mais je disais justement, c'est un livre sur le désir d'une langue étrangère, sur le désir du russe pour une jeune bengalie. Est-ce que c'est pas aussi la métaphore de ce qu'est l'entrée en écriture pour un écrivain? C'est-à-dire, en gros, il s'agit de trouver sa langue.
Oui, oui, on trouvait son corps aussi, comme Dani a rappelé à juste titre, le rapport avec la mère, quand elle refuse le lait de sa mère, c'est ce qu'elle, quand elle a refusé quand elle était enfant, elle ne s'en rendait pas compte, mais plus tard, quand elle a envie, en fait, de refuser tout cela, de quitter ce lien natal, il y a une rupture qui est là, et quand elle va aller chercher une autre langue, un autre pays, un autre corps, c'est tout ce voyage qu'elle... exil, même si vous voulez, un exil intérieur, parce qu'elle n'a pas encore voyagé physiquement en Russie, on ne sait pas si elle va voyager ou pas, mais cet exil intérieur qu'elle s'impose, parce que c'est par là qu'elle va devenir ce qu'elle est ou ce qu'elle devrait être. Et le corps qui est tout au long de ce livre, j'ai l'impression que le corps revient, je parle comme si ce n'était pas écrit.
Oui, le corps refusé au départ, elle refuse son propre corps, puis elle le découvre finalement grâce à
littérature. Elle le découvre aussi grâce à un amoureux, un amant russe, Oleg, et quand... moi, j'aime beaucoup ce passage-là où elle dit que, voilà, enfin, elle découvre son corps. Enfin, elle a l'impression d'avoir un corps. Donc, ce corps-là, qui était corps natal, qui était martyrisé, donc, elle trouve son corps, même corps charnel, corps physique, grâce à une autre langue étrangère.
Pour terminer, Shumana Sinha et Daniela Ferrière, quand j'ai lu vos livres, effectivement, on s'aperçoit que toute vie d'écrivain est conditionnée par la littérature, par les livres qu'ils ont lu, les écrivains, qu'elles ont lu, les écrivaines. Tania écrit son journal à cause du journal d'Anne Frank. Vous avez certainement écrit, Dani, à cause de ce que vous avez lu. Ce journal va être brûlé, comme d'autres livres seront brûlés dans votre livre, Shumana Sinha. C'est aussi l'objet de votre livre, de montrer combien les livres sont forts, mais aussi fragiles, combien au fond, dans toutes les époques, et peut-être encore aujourd'hui, les livres sont toujours suspects.
Oui, et puis c'est lui qui écrit, c'est lui qui lit aussi, c'est suspect. C'est comme si c'était une secte à part. Les gens qui possèdent les mots, on se méfie. Pour tous ceux qui n'ont pas accès malheureusement aux mots, comme s'il y a une suspicion quelque part, les gens qui savent manier mieux, c'est comme s'ils ont accès à une vie secrète, à une vie autre, une vie parallèle. C'est pour ça peut-être qu'on se méfie des gens qui manient les mots, qui écrivent, qui lisent. Donc on est dans la même famille en fait, je ne divise pas les lecteurs et les écrivains. Donc oui.
Il faut que cette secte reste libre. Daniela Ferrière, en ce moment, on voit, voilà, il y a des livres qui peuvent pas être écrits, il y a des livres qui peuvent pas être publiés, il y a des sujets qui seraient interdits à certains écrivains parce qu'ils partagent pas la même histoire que leurs personnages. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il faut que ça reste libre, liberté totale. La littérature a-t-elle tous les droits?
J'ai déjà répondu à cette question par je suis un écrivain japonais.
Voilà.
Pour dire cela. Et je crois que c'est exactement tout le propos de toute ma littérature. Oui. J'ai écrit à peu près 31 livres pour dire uniquement cela. Il faut dénaturaliser la littérature. Et l'exil vaut le voyage. Le nombre d'écrivains venant de partout, que ce soit du Sénégal ou des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, et de siècles différents aussi. Il faut décloisonner totalement.
Qui peuvent écrire sur tous les sujets, voilà.
Tous les sujets, et il n'y a rien de pire que les gens qui font semblant qu'ils n'ont lu que les écrivains de leur secte, de leur classe, de leur groupe, de leur caste.
Oui.
Et j'ai vu ça d'ailleurs aux États-Unis, avec les Américains noirs, des fois, le nationalisme est tellement puissant qu'ils ne citent que les écrivains et Américains noirs. Comme si la littérature était née dans une sorte de climat spécial. Non, 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 non. D'ailleurs, on n'a qu'à aller chez eux, vous voir, ils lisent tous Rimbaud.
Merci beaucoup, Dani Laferrière. Merci beaucoup, Shumana Sinha. Je rappelle le titre de vos livres, Le Testament russe, Shumana Sinha, c'est chez Gallimard. L'exil vaut le voyage, c'est chez Grasset. Shumana Sinha, on se quitte en écoutant votre choix musical. Vous avez choisi l'excellent Vladimir Vysotsky. Rien ne va plus, pourquoi ce choix?
Alors, pendant 2 ans, donc, j'ai écouté les chansons russes des années 50, 60, 70. Vysotsky, qui est dissident, qui a aussi chanté en français avec la femme qui était française.
Marina Vladi.
Oui, donc cette voix, la révolte dans la voix, qui m'a accompagnée tout au long, qui continue à m'accompagner. J'ai bu, je continue à boire du thé russe, de la vodka, je le cache pas non plus. J'étais à deux doigts d'acheter un samovar. Donc tout ça, c'est parti dans ma vie un petit peu russe depuis 2 ans et demi maintenant. Donc Vysotsky, il continue à m'accompagner, son rôle en tant que dissident. Enfin, dissident, c'est un mot qui peut être galvaudé. Enfin, ça veut dire c'est être debout, rester là, résister contre le vent courant, contre les censures, contre le totalitarisme.
Voilà. Eh bien, résistons. Vladimir Vysotsky, rien ne va plus. C'était Le Temps des écrivains avec Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Marie Le Peintre à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster à l'infini sur franceculture.fr cette émission en compagnie de Shumon Assina et de Dany Laferrière.
Sommeillant, je vois la nuit des crimes lourds où l'on saigne. Pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est âcre, le goût du vin maudit. Va, dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui. Et rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme doit. Dans tous les cabarets sans fond, où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui. Je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle. Mais comment prier dans la fumée de l'encens des diacres? Rien ne va plus, rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme droit. Et comme un vieux loup dans les bois, en fuyant le pire, je suis resté tout seul avec moi, près de les montagnes où l'on respire. C'est là que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît de loin un vrai sapin d'un faux sapin. Rien ne va, plus rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va, pour vivre comme un homme droit. Loin de tout manège, je suis ma vie, en laissant ma trace dans la neige, pour qu'il me retrouve, l'ami qui me suit. Loin de tout cortège, venez, l'aimez-vous, venez par ici. Devant et derrière, nous n'avons que faux amis, faux amours, faux frères. Vois-tu les sorcières ici ou là, dans la forêt qui bouge? Vois-tu le bourreau tout là-bas, avec son habit rouge? Plus rien ne va ici, déjà sur mon chemin de terre. Mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Rien ne va plus, rien ne va, pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien